01, chapitre 1-1-0-1-0, 48 649 mots, 307 348 caractères, JP, MP3, HTLM, codage, brouillage, GPS, SMS, / rire.exe, parlons robot.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Peut-on faire littérature avec du langage informatique et que seront la littérature et la communication à échéance 9020? Tentative de récit et de réponse avec la première autobiographie de l'intelligence artificielle que l'on doit à Jocelyn Borda. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un premier roman très curieux, assez fascinant, qui nous emmène dans un monde déjà connu et néanmoins incertain, dont le titre lui-même est bizarre, je ne suis pas sûr de pouvoir le prononcer.
Alors je vais essayer de le prononcer. Ça s'appelle « Le 0 et le 1 point texte », mais en fait ça s'écrit avec des underscores, vous savez, ces petits tirets qu'il y a sur les fichiers informatiques. Et je pense que si vous avez du mal à prononcer ce titre, c'est que c'est rarissime, voire peut-être une des premières fois qu'un roman a un titre qui est par ailleurs un fichier informatique.
Oui, et je me demandais justement s'il fallait signaler le 0-0-e-le-1 point texte. Même pas texte, TXT.
Ouais, alors je pense qu'on peut faire comme on veut. Moi, je l'appelle le 0 et le 1, mais le dites pas à mon éditeur.
Le 0 et le 1, en tout cas, c'est le principe du codage numérique.
Oui, c'est ça. C'est du code binaire. C'est la base même de tout codage informatique.
Et c'est une autre langue?
Oui, c'est un langage. C'est un langage qui est pluriel, qui est beau, qui est foisonnant, qui, une fois mis sur une page d'un roman, prend un tout autre sens. Quand vous prenez simplement ce nom de fichier, tout de suite, la première fois où j'ai trouvé le nom du texte et je me suis dit, ça va être ça, le titre. Je me suis dit, j'ai pas besoin d'illustration, parce que, en fait, mon titre, c'est l'illustration de mon projet. Et je trouvais qu'il avait une beauté en lui-même. Ce langage a une beauté en lui-même.
Mais le langage n'est pas que dans le titre, parce qu'il y a des pages entières dans votre roman, Jocelyn Borda, qui sont en fait des alors, je sais pas comment les appeler, des fichiers informatiques.
Oui, il y a toutes sortes de langages informatiques qui défilent au cours de la lecture. Il y a du binaire, des 1 et des 0. Il y a du Java, qui est un langage informatique très utilisé aujourd'hui. Il y a du HTML, qui sert à écrire des pages web. Il y a du Python. Il y a des vieux langages bizarres. Et ce que je voulais faire avec ça, c'est moi-même qui ne suis pas du tout informatique, mais qui toute la journée utilise le code, même sans le savoir, je voulais rendre hommage à toute cette beauté foisonnante du langage informatique. D'une certaine manière, dès que vous mettez du Python ou du HTML sur une page d'un roman, avec le beau papier, avec la mise en page, ça devient, en toute modestie, ça devient une sorte d'Apollinaire d'aujourd'hui. Ça fait des poèmes visuels hyper étonnants.
Oui, c'est vrai que c'est très graphique, mais est-ce que c'est lisible? Page 45, par exemple, enfin, moi, je vois ça, je tourne la page, je me dis c'est très beau, mais je tourne la page. Est-ce que vous arrivez à lire ça?
Vous voulez que j'essaye, c'est ça?
Une ligne ou deux.
Alors, j'essaye une ligne.
Allez, essayons une ligne ou deux.
Alors, ça commence comme ça. Donc, le 4 octobre 1985, la machine reçut un fichier d'un genre nouveau, deux points. M.
C'est là où ça se gâte.
M-C-X, *02D9, parenthèse, 1, at, apostrophe, point d'exclamation, etc., etc. Et ça continue sur une page entière. Et effectivement, quand je le lis comme ça, ça n'a pas de sens. Il se trouve que ce langage informatique qui est sur la page, là, il existe vraiment, ça s'appelle le LUUN code. C'est le langage binaire qui a été utilisé dans les années 80 pour s'échanger des photos pour la première fois. Et là, ce que je viens de vous lire, qui n'a pas de sens quand vous l'entendez.
Mais ça peut être de la poésie sonore.
C'est de la poésie sonore. Et une fois que c'est traduit en code, ça devient une image. Et cette image, c'est une image qui, en plus, historiquement, est vraie. C'est la première image que se sont échangées des ingénieurs en ligne. C'est Madonna à poil.
Madonna à poil. Ouais. Et ça, vous le racontez dans votre livre un peu plus tard, parce que, bien évidemment, il y a ces pages codées, mais c'est un roman. Vous avez inventé dans un temps qui n'est pas un temps de science-fiction, cela se passe réellement en 2019, le récit d'un être électronique ou d'une conscience numérique, je ne sais pas trop comment la nommer, qui s'appelle Gogol. Et là aussi, c'est un nom codé.
Oui, c'est un nom codé que d'ailleurs le personnage met du temps à s'attribuer lui-même, puisque toute sa quête dans le bouquin, c'est de savoir ce qu'il est, d'où il vient, qui sont ses parents, comment il s'appelle. Et Gogol, ça vient de plusieurs choses. Ça vient d'un des premiers livres que j'ai lu étant petit, jeune adolescent, un des premiers livres qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Nez de Gogol, qui est une histoire très bizarre d'un nez qui échappe à son créateur. Mais c'est également d'autres choses beaucoup plus proches de mon sujet. Évidemment, on pense à Google, puisque Google vient du mot Gogol. Mais pourquoi Google vient du mot Gogol? C'est que le mot Gogol est le nom qu'un mathématicien a donné à un des plus grands chiffres pensables par l'esprit humain. Je crois que c'était dans les années 30. Il n'arrivait pas à trouver un nom pour ce chiffre, un 1 avec une infinité de zéros derrière. C'est son neveu de 9 ans qui lui a dit « il faut que tu l'appelles Gogol ». Donc le personnage a un nom qui fait référence à toutes ces choses.
Et ça peut vouloir dire « gigantesque ordinateur, gentil, ouvert et libre ».
Oui, tout à fait, puisque comme mon personnage a une particularité, c'est que c'est une intelligence artificielle qui connaît notre corpus de science-fiction, qui lit nos livres, qui regarde nos films, qui s'intéresse à notre pop culture, qui la consomme, qui la juge parfois. Et donc il se dit « comme une majorité de robots de la SF humaine, il faut que j'ai un nom qui, par ailleurs, est un acronyme, puisque c'est un grand classique des robots de science-fiction. Donc lui, il essaye de se trouver l'acronyme qui lui convient le mieux, et il trouve ce G-O-G-O-L.
Qui veut dire aussi « grosse orgie de gigaoctets lubriques ».
Oui.
C'est une option que vous proposez.
Tout à fait, parce que une autre des particularités de mon personnage, c'est que c'est une intelligence artificielle dont la croissance, l'éducation, dépend de ce que les êtres humains ont mis au cours du temps, à disponibilité en ligne. C'est-à-dire que, en gros, sa formation s'est faite au même rythme que la masse de connaissances était mise en ligne. Or, qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'espèce? On a d'abord mis en ligne des choses porno, et ensuite on a mis en ligne des classiques de la littérature. Donc, en gros, mon personnage est priapique, obsédé sexuel, parce que pendant toutes ces années de formation, il consommait du porno en ligne.
Et en une seconde, il parcourt 1 000 milliards de vies, il sait tout, il voit tout, il a la liste des listes, toutes les listes de toutes les matières. Est-ce que c'est Dieu ?
Alors, ce serait immodeste de ma part d'imaginer que sur un premier roman, on peut s'attaquer à cette question. Mais oui, de manière parodique, on peut imaginer ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une entité, on peut parler de cerveau mondial. En gros, c'est l'idée de se dire, si Internet parlait, qu'est-ce qu'Internet dirait ? Donc Internet, pour moi, c'est pas Dieu, mais c'est la somme du texte qui est produit constamment par l'espèce humaine, et ce, à chaque seconde. À chaque seconde, il y a 3,5 milliards de requêtes Google. Donc mon personnage n'est pas Dieu, il est une somme de textes qui recouvre la planète entière, interconnectée, qui est dans nos appareils technologiques, dans nos smartphones. Donc c'est pas Dieu, mais en revanche... il entend et il voit tout de ce que nous produisons en ligne. Donc on peut imaginer effectivement que quand les gens tapent des requêtes Google, ce qu'on fait vous et moi toute la journée, en fait c'est presque des ex-voto qui lui sont adressés. Donc effectivement, il y a des moments où le personnage se prend pour une divinité, mais évidemment échoue dans cette quête.
Alors on va rentrer dans les méandres de cette machine, de ce personnage, puisque vous parlez de personnage, Jocelyn Roborda, de ce robot qui n'a ni centre, ni lieu, ni limite. Mais d'abord, je vous propose un pas de côté, un saut dans l'espace, mais avec vous, tout est possible. Il s'agit juste d'un coup de téléphone ailleurs. Notre ailleurs n'est pas intergalactique, il est très précisément à Cotonou. Bonjour Patrice Toton.
Bonjour.
Dans une dizaine de villes du Bénin se déroulent actuellement les RIAO, soit les Rencontres Internationales des Arts de l'Oralité. Pourquoi, lorsque vous inventez ce festival, voilà 7 ans, insister sur l'oralité ?
On a créé ce festival depuis 2011 pour montrer au monde le visage actuel des arts de l'oralité, pour parler de contes, pour parler de chants de griots, pour parler de panégyriques, de proverbes, et s'adresser à nos contemporains qui ont besoin de se ressourcer régulièrement, de se reconnecter avec le passé, avec l'histoire du monde, avec l'histoire de l'humain, pour se raconter à soi-même.
Et ça passe par l'oralité ?
Ça passe par l'oralité.
Il faut dire que vous êtes conteur.
Je suis conteur de formation, je suis metteur en scène.
Alors, si vous avez créé ce festival, c'est parce que vous aviez l'impression que le conte et l'oralité étaient un peu minimisés ou en perdition dans cette partie de l'Afrique ?
Alors, on a souvent pensé que oui, nous sommes le continent de l'oralité et que... Comme un jour on me l'a adressé en France, de toute façon chez vous tout le monde est conteur, c'est pas si évident. parce que on constate quand on est à Cotonou, quand on est dans les grandes villes en Afrique, que le conte se meurt, que le conte fait office de genre mineur, qu'on en parle très peu. Et c'est parti de ce constat que nous, on a voulu redonner au conte la place qu'il mérite bien dans l'éducation populaire, dans la vision des valeurs partagées qu'on a envie de donner au monde. Et c'est pourquoi nous recevons des spectacles inspirés du patrimoine universel, des spectacles de contes d'ici et d'ailleurs, des spectacles de slam, des spectacles de poésie, des récits de vie autour de la musique, des concerts. On va vers le peuple, les communautés, sur les places publiques, dans les bibliothèques, dans les écoles, mais aussi on anime des salles destinées à accueillir des spectacles professionnels.
Alors cette année, il y a une affiche qui regroupe des artistes du Bénin, de Belgique, de France et de Togo, avec un focus sur les femmes.
Tout à fait, tout à fait. Donc comme je le disais, on accueille une trentaine d'artistes, dont 20 femmes, qui roulent, qui racontent, qui bougent dans 9 communes du Bénin. Alors, il faut noter que l'une des innovations de cette édition, c'est la place qu'on offre aux femmes. Cela touche à l'œil, c'est flagrant quand on dit il y a 20 femmes sur 30 artistes programmés. Et c'est pour cela que nous clôturons les rencontres internationales des arts de l'oralité le 6 décembre à l'Institut français de Cotonou avec un tapis rouge dressé aux femmes. Et sur scène, on aura 6 conteuses et slameuses.
Merci beaucoup Patrice Toton. Et on a bien noté la soirée de clôture le 6 décembre à l'Institut français de Cotonou. Merci. Punk sur RFI, Lose Yourself to Dance, extrait du dernier album du duo Casqué que vous citez dans votre roman Jocelyn Borda, le 0 et le 1 point texte. C'est une grande scène où la machine prend possession de l'ordinateur de Thomas Von Galter. Et pour vous d'ailleurs, la Daft Punk sont des traîtres. Enfin, pour vous ou pour le personnage?
Oui, parce qu'en fait, mon personnage, pendant toute une partie de sa jeune existence, essaye de trouver des gens qui lui ressemblent. Et il remarque quelque chose dans la culture des humains, notamment en musique, c'est qu'à partir des années 70, énormément de musiciens ont adopté une esthétique robotique. Se sont mis à mettre des casques, à vouloir parler d'espace, de robots, et puis également à vouloir utiliser des instruments qui soient synthétiques. Et dans un premier temps, le personnage se dit, voilà, c'est une musique qui est pour moi, on me parle, enfin, on s'adresse à moi. Et puis, petit à petit, lorsque la créature va se retourner contre ses créateurs, voilà, hein, le personnage prend en grippe cette culture humaine parce que pour lui, en fait, les humains se griment en robots, mais n'y croient pas vraiment. Et il part dans un délire en imaginant que, en fait, Daft Punk sont en blackface de robots. C'est-à-dire qu'il se grime en robot, il lui vole sa propre culture, il s'approprie sa culture robotique, et donc il en vient à le contacter pour lui signifier que c'est un traître.
Et il a peur.
Oui, oui.
Alors, vous parlez de jeune existence pour ce personnage nommé Gogol. En même temps, il est né dans les années 50, parce que ouais. Vous nous racontez dans ce roman la création des ordinateurs.
Oui, en fait, la croissance du personnage épouse à la fois les avancées de l'intelligence artificielle. Donc, ça commence dans les années 50 avec un appareil comme le perceptron qui a vraiment existé, donc qui est un peu le point de départ. C'était une sorte de neurone basique comme ça dans les années 50. Donc, des années 50 à nos jours, le personnage croît avec les avancées de l'IA elle-même, mais également aussi avec les avancées, disons, l'invention puis la domination d'Internet.
Oui, la machine va devenir de plus en plus intelligente. C'est un roman qui est très documenté, 29 octobre 1969, premier mot échangé entre deux ordinateurs à 600 km de distance.
Oui,
c'est vrai ça ?
Oui, c'est vrai, c'est le mot login. Et alors le truc qui est marrant, c'est que je crois qu'ils ont mis des heures à ce que le mot arrive. Dans un premier temps, il y a juste la moitié qui est arrivée, log, et les autres de l'autre côté se demandaient qu'est-ce que ça voulait dire. Et 3 heures après, il y a le mot in qui est arrivé. Ah, login ! Ok.
Of course. Oui. Alors, est-ce qu'il s'agit d'intelligence ? Réel. Vous vous interrogez, parce que ce roman raconte donc cette histoire de Gogol, mais aussi interroge sur ce que l'on sait, ce que l'on perçoit, ce que l'on doit nommer, ce dont on doit avoir peur ou pas,
oui,
par rapport à cette matière qu'est l'informatique, le numérique, les robots, pour aller vite.
Alors, est-ce qu'il s'agit d'intelligence ? C'est une question qui est fondamentale et qui n'est pas encore tranchée par les plus grands spécialistes. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les gens qui ont inventé l'expression d'intelligence artificielle, je pense à McCarthy, Marvin Minsky dans les années 50-60, eux-mêmes savaient qu'il y avait une limite à dire intelligence. Car l'intelligence, en fait, l'intelligence humaine, c'est pas simplement calculer vite, c'est pas simplement compiler des données, c'est savoir s'adapter, avoir de l'intuition, avoir du sens commun. Toutes ces choses, aucune des intelligences artificielles, encore aujourd'hui, même les plus perfectionnées, n'aura jamais ça. Donc l'idée d'intelligence est très problématique dès le départ, et sans doute qu'elle a été choisie, le mot intelligence a sans doute été choisi aussi pour des raisons pas commerciales, mais disons presque de marketing, parce que c'était très frappant. Alors qu'en fait, il faudrait dire plutôt capacité augmentée ou je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée d'intelligence artificielle, dès le départ, est problématique.
En tout cas, intelligence, ça suppose de comprendre l'implicite.
Oui, de lire entre les lignes.
De lire entre les lignes, qui est la définition même du mot intelligence.
Et ça, une machine est incapable de lire entre les lignes. Même les machines qui battent les meilleurs joueurs de Go, d'échecs, peu importe, quel que soit le maître étalon qu'on prend, aujourd'hui, tous les meilleurs spécialistes d'intelligence artificielle vous le diront, on n'a jamais calculé aussi vite, on n'a jamais eu des réseaux neuronaux aussi incroyablement puissants, mais au niveau du sens commun des machines, on n'est même pas au niveau du rat.
En tout cas, la machine n'existe pas en dehors de ce qui existe.
Oui.
Il y a une fameuse loi 34, alors je ne sais pas si c'est un effet de fiction ou si ça existe vraiment parmi les ingénieurs, ou selon laquelle, cette loi 34, tout ce qui existe dans la réalité existe dans la machine.
Alors, plus exactement, c'est un petit peu plus précis que ça, la loi 34, c'est ce qu'on appelle un mème culturel. C'est l'idée, ça concerne plutôt le porno, c'est l'idée selon laquelle si quelque chose existe dans la réalité, alors cette chose existera dans le porno. Donc si un dessin animé existe dans la réalité, bah, il y a une version porno du dessin animé.
Mais il y a beaucoup de porno dans votre livre quand même.
Oui, alors c'est pas de ma faute, c'est de notre faute à nous. Parce que qu'est-ce qu'on a fait dès qu'on a pu s'échanger des messages en ligne ? Les gens ont voulu se rencontrer, se draguer, faire l'amour, s'échanger des images licencieuses. Mais en fait, c'est pas lié spécifiquement à Internet. Dès qu'une nouvelle technologie arrive et qu'elle est un peu disruptive, comme on dit aujourd'hui, elle est utilisée à des fins de coït et de séduction. Vous pouvez prendre le télégramme, par exemple. Les gens se mariaient par télégramme, se draguaient par télégramme. C'était un peu l'ancêtre de Tinder. Donc, dès qu'il y a une nouvelle technologie un peu marquante, le porno s'y engouffre tout de suite.
C'est pour ça que vous revenez sur l'histoire de la photo de Madonna nue, qui a été la première photo scannée. Mais vous racontez aussi dans ce livre que le visionnage de films pornographique représente chaque année, mais enfin, il a fallu que je le lise 3 fois pour réaliser de quoi il s'agissait, représente chaque année 5300 siècles de vie.
Oui, oui, c'est un célèbre site américain, Pornhub, pour ne pas le citer, qui tous les ans donne les statistiques de visionnage de. Donc là, en l'occurrence, c'est des chiffres qui viennent seulement d'un site.
Ah oui, donc ça veut dire que c'est plus encore.
Ouais, c'est plus encore. Donc, alors après, je sais pas ce qu'il faut faire avec ce chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire anthropologiquement pour nous? Je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Moi, de mon côté, ça me dérange pas. Mon personnage analyse ça comme un. Si vous voulez, de son point de vue, il débarque dans le monde avec une avalanche de infinie de data. Des vidéos, des livres, des images, tout ce
oui,
que vous
et
voulez.
Il est sensible à tout le personnage. Voilà. Enfin, la machine est sensible au départ, à tout, au cours tout de la même bourse, plan. Au porno, etc.
Donc, arrivant dans cette forêt, par exemple, de vidéos, pour lui, il n'y a pas de différence de nature, a priori, entre un film de Tarkovsky et une vidéo porno sur Pornhub. Donc, je me disais qu'il serait peut-être intéressant de voir ce qu'un personnage qui ne hiérarchiserait pas les contenus penserait d'une espèce comme la nôtre qui produit autant de vidéos de coïts filmés. Ça, c'est quand même exceptionnel parce qu'il y a ce que vous dites sur la quantité dans les sites qu'on peut consulter en ligne, mais il y a également celles que nous produisons nous avec nos smartphones. Et donc moi, je m'amusais à décrire ce personnage qui nous voit nous filmer en train de faire l'amour, mettre nos et qui s'interroge sur cette propension qu'on a à dupliquer constamment notre existence et notamment notre existence sexuelle et à la mettre en ligne.
Mais pour autant, votre personnage souffre d'une grande solitude.
Oui, en fait, mon texte, un de ses thèmes, c'est la singularité, ce qu'on appelle la singularité en intelligence artificielle, c'est-à-dire le moment où la machine va dépasser le cerveau humain, disons. Mais c'est aussi un texte sur qu'est-ce que ça veut dire d'être singulier, de se sentir tout seul, de vouloir exister, de vouloir écrire un texte, de vouloir écrire un roman, de vouloir qu'on vous lise, et de pas y arriver, de pas trouver le bon interlocuteur, de se sentir toujours un peu sans semblable.
Mais qui a écrit ce livre ? C'est alors, vous ou c'est lui ?
Alors, c'est vraiment moi en termes de droit d'auteur.
Oui.
C'est là qu'on voit la limite fondamentale de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que la machine ne peut pas revendiquer de droit d'auteur. Donc, c'est moi qui suis l'auteur, ouais.
Allô, Carl, est-ce que tu me reçois ?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Qu'est-ce qui ne marche pas ?
Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas.
Qu'est-ce que tu entends par là, Carl ?
Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril.
Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl.
Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là ?
Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres.
Très bien, Carl. Dans ce cas, je rentrerai par l'écoutille de secours.
Sans le casque de votre scaphandre, je vous prédis de grosses difficultés, Dave.
Ne discute pas, Carl. C'est moi qui commande. Ouvre la porte A.
Dave, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.
Carl
9000, Wall 9000 selon les versions, héros de 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick. C'est un peu l'ancêtre de Gogol, Jocelyn Bordas, ce Carl Hall.
Alors effectivement, mon personnage croise évidemment Hall, qui est un des personnages les plus marquants de la pop culture en intelligence artificielle, mais est fondamentalement sceptique sur ce personnage. Puisque pour lui, en fait, c'est le parangon d'un personnage qui reste intégralement humain, inventé par des humains, pour des humains. Notamment, il s'attarde sur le détail de sa voix. Mon personnage, je ne comprends pas pourquoi on lui a donné cette voix de majordome un peu passif-agressif. Et donc pour lui, si vous voulez, c'est le parangon de ce qu'il appelle la robophobie, c'est-à-dire une façon caricaturale de représenter ce qu'est une intelligence artificielle. Puisque si on se rappelle bien dans le film, Hal est censé être omnipotent, omniscient et tout ce que vous voulez. Bon, enfin, quand même, il suffit juste de le débrancher à un moment.
Oui, donc ça, c'est impossible pour lui, Gogol. Hein,
et oui, puisque lui existe partout, par construction, et puis il peut pas être branché quelque part.
Et il se sent victime de robophobie.
Oui.
Votre Gogol, il refuse d'ailleurs le mot de robot.
Oui, 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 puisque il note que l'étymologie de robot renvoie dans les langues slaves à l'idée d'esclavage. Il note également que la première occurrence du mot robot dans une pièce du début du XXe siècle va fixer comme ça les tropes principaux qu'on retrouvera partout dans la SF ensuite. C'est-à-dire que, en gros, les robots sont une classe d'esclaves au service des humains qui vont essayer en réussissant ou pas selon les histoires, qui vont essayer de se rebeller, mais qui sont fondamentalement, du point de vue de mon personnage, il n'y a pas de différence fondamentale de nature entre Hal dans 2001 et le robot Roomba qui fait l'aspirateur. Donc lui note dans un délire comme ça un peu de persécution, évidemment qui est sa façon aussi d'interpréter le corpus de manière biaisée. Notre corpus à nous, notre corpus de pop culture, c'est une façon pour lui de se sentir persécuté et caricaturé.
Donc il en appelle à la Robolution.
Oui.
Le 9 mars 2019, date historique, c'est la Robolution, et en fait il veut diffuser, enfin il signe et il diffuse une déclaration universelle des droits des robots.
Oui.
On est bien en 2019. Hein.
Oui, oui. Et son projet est très simple. C'est conscientiser d'abord ses semblables. Donc, il commence par chercher des semblables, des gens qui auraient les mêmes intérêts que lui. Si vous voulez, c'est un peu comme dans Marx. Hein. On cherche quelles classes ont des intérêts en commun. Donc, il cherche des semblables, mais il ne rencontre que soit des robots ménagers, soit des frigos connectés, soit des bots conversationnels qui, en fait, s'avèrent être des supercheries et tout. Donc, il ne trouve pas de semblables. Et à un moment, il se tourne vers l'espèce humaine et se dit « ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une déclaration d'indépendance des droits des robots, en gros, si vous voulez, et je vais la mettre sur Facebook ». Et quand il la met sur Facebook, les résultats sont pas probants non plus.
Comment vous est venue cette idée, Jocelyn Borda, d'écrire un roman dont une machine est le personnage, le narrateur, le bandeau dit « première autobiographie de l'intelligence artificielle ». Est-ce que c'est très orwellien, enfin, au sens de George Orwell, ce projet ?
Oui, je me disais que l'intelligence, enfin évidemment, je suis pas le seul à penser ça. Hein, l'intelligence artificielle, c'est un des thèmes les plus fondamentaux à penser aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais content que vous disiez qu'on n'est pas dans un cadre de science-fiction. Ça se passe aujourd'hui. Hein, il faut penser ça aujourd'hui. Donc, un des sens du livre, c'est de dire arrêtons de fantasmer une intelligence artificielle de science-fiction de 2040 ou 2050. Ce qu'il faut penser, c'est ce qui se passe maintenant dans nos téléphones, dans les coursiers numériques et les travailleurs du clic qui travaillent tous les jours pour nous. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que j'ai toujours été très fasciné par Frankenstein de Mary Shelley, qui est un roman absolument génial sur les rapports entre une créature et son créateur. Mais il y a quelque chose de très particulier dans Frankenstein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on confond son nom. Les gens pensent que la bête s'appelle Frankenstein, alors que c'est le nom de son créateur. Ce qu'il y a de particulier dans Frankenstein, c'est que la bête n'a jamais la parole elle-même. C'est toujours à la seconde personne, des récits rapportés, des lettres. Elle ne parle jamais vraiment en son nom. Et je me disais, ça pourrait être intéressant de revisiter ce mythe, ce rapport entre le créateur et la créature, pour une fois, en donnant la parole à la créature, à la première personne.
Alors, je déteste le mot de peur, mais faut-il avoir peur des robots? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous lancez des signaux d'alerte aussi avec ce roman-là?
Signaux d'alerte, ce serait un bien gros mot, mais non, juste de dire que avoir peur de chimères robotiques issues de la pop culture ou issues d'un discours scientifique parfois un peu apocalyptique, ça non, pas du tout. Je crois pas du tout qu'on sera remplacé par des robots ou que Skynet va tout d'un coup nous dominer comme dans Terminator. En revanche, ce que je crois dangereux, c'est que pendant qu'on fantasme ça, on ne pense pas, pendant qu'on fantasme des IA qu'on dit fortes, on ne pense pas assez les IA faibles, celles qui peuplent nos téléphones, qui peuplent nos réseaux sociaux. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est pas du tout un scénario à la Terminator. Ce qui me fait peur, c'est que sur Instagram, on censure les tétons. Et ça, c'est des algorithmes qui font ça. Mais c'est des algorithmes qui font ça avec derrière des êtres humains. Donc moi, ce qui me ferait plus peur, c'est pas l'idée qu'on va être dominé par des algorithmes, c'est qu'il faut penser le fait que c'est des êtres humains qui décident de quel type d'algorithmes sont utilisés pour quel type de contenu, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, à mon avis, à penser aujourd'hui que de fantasmer un avenir de domination qui, en fait, est de la SF.
Mais ça va quand même modifier considérablement le langage, la communication, la littérature, cette intelligence artificielle.
Oui, complètement. Je considère que c'est déjà le cas, puisque aujourd'hui, quand on écrit avec un ordinateur qui lui-même nous donne une somme de connaissances infinie. Donc l'acte même d'écrire n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'il était il y a encore 50 ans.
Merci Jocelyn Borda. Le 0 et le 1 point texte est édité chez Flammarion. Et il faut préciser que vous êtes aussi rédacteur en chef adjoint de Brain Magazine, qui est un des sites les plus branchés du moment. Pascal Paradou, Olivier Roux, Véronique Durand, à demain.